Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Harold David qui aujourd'hui a mis sa casquette de programmateur.
Enfin, co-programmateur du Festival Éclat de Diolfi.
De Diolfi qui commence le 7 septembre. C'est la 15e édition et cette année, plein de choses encore.
Oui, plein de choses avec une programmation qui, bon, une fois n'est pas coutume, a une couleur un peu jazz, gospel. Voilà, parce qu'une des têtes d'affiche que nous accueillons et qui est marraine du festival, c'est Lise McComb. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est une des grandes voix américaines, enfin afro-américaines du jazz, du gospel, de la soul et... vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a arpenté toutes les grandes scènes mondiales de ce type de musique, tous les grands festivals à Montreux, à Cré aussi, elle est venue chanter il y a une quinzaine d'années.
Donc une belle tête d'affiche.
Et une vraie belle tête d'affiche, porteuse aussi d'un message, parce qu'elle se vit comme ça. Hein, ces concerts, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est outre l'énergie très particulière qu'il y a dans la musique nord-américaine, qui est une musique de vie, enfin de survie, vie, etc., qu'on ressent dans tous les champs. La spécificité aussi de Lise McComb, c'est que bon, elle vient d'une famille de pasteurs, etc., donc elle a quelque chose d'ancré très fort d'un point de vue de la foi, et donc il y a un côté non pas religieux au sens voilà, on va à la messe, mais un côté
spirituel
et de communion vraiment entre l'artiste et le public, qui n'est pas dans son cas, qu'une image, comme souvent on dit, voilà, l'artiste communie avec le public. Là, il y a vraiment cette dimension-là, parce qu'elle est aussi, elle se vit et elle agit d'ailleurs dans ce sens, pour, au travers de sa musique et de son art, transmettre un message de paix, ce qui n'est pas du luxe par les temps qui courent. Et donc voilà, c'est aussi une messagère de la paix qui vient rendre visite à la Drôme et au pays de Diolfi en étant marraine de ce festival.
Alors, outre la tête d'affiche, un programme à détailler et qui est plutôt fourni, je lis concerts, spectacles, jeunes publics, rencontres, cinéma, piano, bar, radio, il y en aura pour tout le monde.
Oui, il y en a pour tout le monde, c'est vraiment le principe du festival depuis sa création, donc première édition en 2002, là on est rendu 15 ans après. On n'a pas tellement fait évoluer la formule, parce que des fois il y a des festivals qui cherchent ou qui mettent du temps avant de trouver effectivement un format qui soit en adéquation avec un territoire, avec un public. Là, ça s'est fait assez facilement et assez rapidement sur un concept très simple qui est celui de l'éclectisme d'une part, et puis le fait aussi qu'on pense le festival et la programmation pour un public qui est un public de résidents sur le bassin de Montélimar et de plus loin, puisqu'on a maintenant des gens qui viennent de Grenoble, de Lyon, même de Paris, enfin voilà, des fidèles du festival, mais c'est pas un festival d'été au sens traditionnel du terme, où on a effectivement une clientèle de spectateurs qui est une clientèle de passage. Là, ce sont vraiment les habitants du territoire au sens large qui viennent démarrer leur saison, leur rentrée avec ce festival qui, bon, bah, d'après ce qu'ils nous en renvoient, les met plutôt en joie et leur donne du plaisir. Et effectivement, l'idée qui a été la nôtre, quand je dis nous, c'est que j'ai créé le festival avec Moïse Hill, qui est co-directeur et qui signe la programmation avec moi de ces 15 éditions, et qui lui est originaire de Diolfi, il est né à Diolfi. C'était de se dire, bah, quel festival, si on habitait à Diolfi en permanence, donc lui connaissait ça puisqu'il avait grandi là, quel festival on a envie de vivre et de partager en tant que spectateur. Et donc voilà, on a imaginé ça comme ça. aussi parce qu'on connaissait beaucoup de Dieulfitois, ce qui est sorti du concept, c'est que il fallait avoir des propositions très diversifiées, que le public puisse faire le plein de spectacles pour l'hiver, parce que bon, maintenant ça a pas mal évolué, mais il y a 15 ans, c'est vrai que l'offre hivernale en termes de spectacles vivants était assez limitée, on va dire. Là, le festival a ouvert la voie à plein d'initiatives, et donc maintenant c'est chouette, il se passe plein de choses aussi en hiver. Et puis aussi que ça puisse concerner tout type de génération, tout type de public. On voulait pas d'un festival qui soit clivant, voilà, par justement des genres musicaux, ou parce que je sais pas, si on fait un festival de musique baroque, bon bah c'est très bien, mais ça cible un type de public très particulier. De même que quand on fait un festival de dub, par exemple, ça cible aussi un type de public très particulier. Là, l'idée c'était d'être sur un éclectisme qui permette d'être sur du tout public et en même temps du tout public au sens pas seulement en termes d'âge, mais aussi de catégories socio-professionnelles, d'horizons culturels, et donc d'arriver à faire que justement les propositions déclivent certains modes de fonctionnement qui sont, enfin, bon, je le connais sur Di et je le vois aussi sur Di avec mes activités ici, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de tribus qui sont parallèles et qui se rencontrent pas forcément. Et là, on avait envie, en tout cas, d'une fille que le festival permette ça.
C'est l'occasion, je trouve, de se mélanger quand justement les touristes sont partis.
Tout à fait, et de se retrouver, de se rencontrer, oui. de voir que l'autre est là et que finalement on vit à côté de lui tout au long de l'année sans forcément le reconnaître. Et cette dimension de reconnaissance, effectivement, elle est au cœur du projet.
Alors, est-ce qu'on peut pas vraiment se permettre là de prendre le programme et puis de le lire ensemble? C'est assez énorme quand même.
C'est une vingtaine de spectacles avec des propositions, alors comme ça qu'on peut égrener un peu au hasard,
égrénons. Mais
qui vont aussi bien effectivement du côté de la voix chantée au sens chanson française. On l'a dit aussi pour ce qui concerne le jazz et le gospel, donc en dehors de Lise McComb dans le même registre. On aura le trio Barolo, que les Diwas connaissent un peu, puisqu'on les a accueillis au théâtre de Di en création l'hiver dernier, donc en décembre 2015. Et c'est donc cette création qu'ils vont présenter à Dieulfit, parce que forcément, étant dans les deux territoires et les deux aventures, il y a quelques ponts qui se créent. D'ailleurs, la présence de Carole Jacques, qui est bien connue ici sur le Diwa, en est un autre exemple, puisqu'elle viendra présenter son récital en solo Même pas peur. Et puis, ensuite, maintenant dans le jazz, j'oubliais, jazz chanson, on a le spectacle Accord à cordes avec Fabienne Guyon et Yves Martin qui, là, sur un mélange voix contrebasse, propose un répertoire qui va effectivement chercher du côté de la chanson française, mais aussi des standards de jazz et puis quelques créations à eux. Et puis sinon, Musique du Monde avec notamment Samarcande, qui est un groupe qui mêle pas mal d'influences, mais où l'idée est de faire entendre toute cette tradition musicale et orale de la route de la soie, donc de ce long cheminement d'est en ouest, décidément j'en sors pas, qu'on retrouve au travers de ce groupe assez étonnant, avec Milina Jeliaskova qu'on a accueilli l'an dernier d'ailleurs aussi au Festival Éclat, avec un autre groupe qui s'appelle Balkan, qui sont des voix là, plutôt du côté voix bulgare. Voilà, un très très, très très beau répertoire. On a aussi de la musique classique avec deux propositions. Le chœur Odyssée, qui est un chœur dromois, qui va chanter Monteverdi, donc répertoire de Monteverdi, Claudio Monteverdi, avec plusieurs œuvres de musique sacrée. Puisque, en fait, le festival, pour ceux qui ne le connaissent pas, il prend majoritairement place dans la Halle, qui est le nouvel espace culturel de Dieulfit, donc qui a ouvert il y a 4 ans maintenant, qui est une très belle salle. Dont on rêverait, même ici à Di, de 400 places, et qui permet justement d'accueillir des têtes d'affiches comme on le fait, et d'autres propositions. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une jauge qui est assez intéressante pour ça. Et sinon, les autres propositions ont lieu justement quand il s'agit de musique sacrée ou certaines musiques du monde qui peuvent se produire en église dans les différents lieux de culte de Dieulfit. Donc c'est le cas, voilà, avec le chœur Odyssée qui va chanter Monteverdi. Et puis on a aussi toujours dans les registres musique à la fois sacrée, un peu du monde, et en même temps contemporaine, puisque l'auteur, enfin le compositeur, pardon, est toujours vivant. On va proposer à l'église Saint-Roch, qui est la grande église de Dieulefi, un concert qui s'appelle Missa Tango, avec les chœurs et orchestres de Fourvière. Donc c'est plus de 150 choristes qui sont sur scène, plus un orchestre pas tout à fait symphonique, mais pas loin, pour cette œuvre de Martin même Palmieri, qui est argentin, et qui est un compositeur contemporain, qui a composé une messe, mais qui est une messe tango. Donc on retrouve tous les mouvements d'une messe classique, les kyriés, les machins, etc. Mais tout ça avec une instrumentation et des chants qui sont complètement latino-américaines.
Profanes.
Non, pas profane, sacré, sur des rythmes et une identité musicale qui est sud-américaine. Quoi. Donc voilà, c'est une œuvre vraiment magnifique, c'est ultra accessible. Donc c'est, parce qu'on, toujours quand on dit musique contemporaine, on a l'impression que ça va être tout à fait inaudible. Là, c'est vraiment grand public, comme une messe de Mozart, etc. Sauf qu'elle a cette spécificité d'avoir cette couleur sud-américaine, ce qui est assez inédit pour ce type de répertoire-là. Quoi. Donc vraiment un grand, grand moment de musique et de découverte. Puis bon, il y a un truc, il n'y a rien à faire, quoi. 150 choristes, voilà, ça envoie, et c'est voilà, en général, des moments d'émotion et de musique très, très, très fort. Et donc, toujours dans le côté musique du monde, on accueille aussi Paco El Lobo et son trio flamenco. Donc Paco El Lobo, en fait, c'est un des grands représentants du flamenco en France. Il a hérité par sa famille d'une connaissance très, à la fois très sensible, très historique, très savante, même justement de tous les types de flamenco, parce qu'on a souvent une image comme ça du flamenco qui s'arrête au Gypsy Kings, quoi, pour faire court. Or c'est bien les Kings, j'ai rien contre, mais disons que ça, c'est la version commerciale, ouais. Voilà, et très très grand public du flamenco, qui est une musique de l'âme vraiment, donc qui a à voir avec le sacré et le profane, qui a à voir avec un émotionnel extrême entre la joie et le malheur le plus profond, enfin voilà. Et Paco, en fait, c'est on appelle vraiment un cantaor, avec cette capacité aussi de proposer au public, c'est ça, c'est toujours ça son projet musical depuis qu'il est en France, c'est de faire découvrir au public les différentes facettes du flamenco, qui est très très riche, et il y a vraiment plein plein de flamenco différents, en fait, qui renvoient justement à des moments de vie très très différents, à des émotions très 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 différentes les unes des autres. Et dans son concert, il propose un florilège parmi les 60 styles de flamenco recensés, qui sont tous différents. Et puis, ce qui est chouette aussi dans le concert, là, c'est qu'il est accompagné par un autre guitariste et une danseuse de flamenco, Melinda, qui danse et qui fait des palmas, qui sont ces fameuses rythmiques qu'on fait avec les mains et qui sont caractéristiques du flamenco.
On tape très vite.
Voilà, oui. C'est ça. Et donc, vraiment, c'est un spectacle total danse, chant, musique, à ne pas manquer, avec un grand artiste du flamenco. Et puis on a aussi, j'avais oublié, dans la musique classique, deux propositions avec un récital lyrique qu'on propose toujours. Donc cette année, on donne souvent des cartes blanches à des jeunes voix lyriques qui sont en pleine ascension, on va dire. Et donc là, c'est Jeanne Crouzeau qui va venir présenter un récital qui s'intitule Les amours singulières d'une femme plurielle, où elle reprend voilà, un certain nombre d'héroïnes de l'opéra, du bel canto notamment, mais pas que. Et voilà, c'est une jeune femme qui est bourrée de talent et qui, à mon avis, va monter très très vite dans les sphères. Et on propose toujours aussi de la voix parlée, qui est souvent liée à des personnalités de gens de théâtre, ou des gens qui ont des voix particulières. Et là, je vais en citer deux, parce qu'ils sont presque aux extrêmes, aux antipodes l'un de l'autre, puisqu'on va accueillir Bernard Pivot, qui a été la voix de la littérature pendant des années télévisuelles, et qui maintenant, sur la fin de sa vie, il faut quand même le dire, puisqu'il qu'il a plus de 80 ans, mais une vie bien remplie et toujours pleine d'enthousiasme et de dynamique. Justement, on vient présenter ses souvenirs d'un gratteur de tête, donc voilà, revisite son parcours télévisuel et de vie, et puis d'homme public. Et vraiment, c'est un spectacle très, très émouvant.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir au théâtre l'année dernière, ou en début d'année.
C'était en tout début d'année.
Ça vous donne une autre occasion avec du coup les interviews à écouter déjà disponibles, dont l'interview de Bernard Pivot sur Ardivois.
Tout à fait, voilà. Et puis une autre figure qui a été connue à la télévision et qui est dans un registre totalement différent de du souvenir que bon, peut-être ta génération à toi ne connaît pas, mais la mienne oui. Il s'agit de ce qu'on on va accueillir Muriel Montausset, donc qui va interpréter Œdipe à la folie, qui est un monologue qui revisite le mythe d'Œdipe. Et Muriel Montausset, elle a fait ses premiers pas télévisuels. C'était la figure emblématique de la bimbo de service, de la classe avec Fabrice dans les années 80. Voilà. Bon, bah maintenant, Muriel, elle dit je suis devenue une vieille dame, mais voilà, c'est une femme qui a 60 ans et qui a eu ce parcours assez atypique de femme objet
bimbo théâtral
dont elle a joué, et puis elle renie pas du tout ce passé là mais moi ce que j'ai découvert, parce que j'ai découvert son spectacle à Avignon l'année dernière, et je suis souvent touché par ça, c'est à dire quand je rencontre des artistes qui ont, pour des raisons, et souvent la télé est piégeante pour ça, mais qui se sont retrouvés enfermés dans une image qui a été leur fond de commerce à un moment donné, et puis qui a correspondu à une réalité de leur existence d'artiste à un instant T, et que de les retrouver dans d'autres aventures artistiques ou d'autres projets qui sont à des années-lumière de là où on pensait les attendre, bah voilà, Muriel, c'est exactement ça. Elle joue en fait le rôle de Jocaste, la mère d'Œdipe, dans une version contemporaine où c'est Jocaste qui se confie à son psy et raconte l'histoire de cette terrible histoire d'Œdipe.
Est-ce que ça peut avoir un côté comique? Parce que là, en mélangeant vraiment le côté classique avec le côté moderne de la personne qui va faire sa thérapie...
Il y a des accents comiques, mais c'est quand même une forme de monologue tragique auquel on assiste, et ce qui est vraiment bouleversant, c'est aussi de voir cet artiste là où on a encore une fois une image qui a des années-lumière de ce qu'elle fait dans le spectacle, où elle est juste époustouflante de sincérité, de vérité, et totalement crédible dans cette figure mythologique. Et ça me touche toujours, parce que être artiste, c'est quand même un métier où normalement on doit pouvoir être libre de faire au moins tout ce qu'on a le désir de faire. Et je trouve ça émouvant quand des artistes qui ont pu être catalogués ou enfermés se battent pour ouvrir le champ de création qui est leur. Et ça, envers et contre tout, je trouve ça très beau.
C'est quand même pas la première fois qu'à 60 ans, elle arrive à sortir de son rôle de bimbo. Elle a eu un parcours quand même.
Elle a fait plein d'autres choses entre-temps, mais c'est la première fois quand même où elle se retrouve vraiment dans un registre dramatique. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas effectivement de l'ordre du bimbo, mais plus légères. Voilà, sur des registres légers. Et là, on découvre une comédienne capable de porter un personnage qui relève de la tragédie, quoi. Et ça, c'est assez nouveau pour elle. C'est aussi un tournant important dans son parcours artistique.
Et ça se voit plus dans un sens que dans l'autre. J'ai remarqué que de temps en temps, on a des bonnes surprises avec des acteurs qu'on a vus dans des choses légères ou comiques pendant longtemps, et tout d'un coup, on les voit dans un registre hyper sérieux, voire intense, tragique. On a des bonnes surprises. Le contraire est très difficile, parce que le côté tragique a tendance à s'accrocher même avec le côté comique, et on... On est difficilement embarqué.
Oui, non, c'est. Et puis, voilà, j'en parle entre guillemets en connaissant deux causes pour avoir repris le chemin des planches depuis quelques temps, mais c'est beaucoup plus facile d'interpréter un rôle dramatique que d'interpréter un rôle comique. En termes de difficulté de jeu, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la légèreté, dans la rythmique qui est liée au ressort
qui permet de faire vraiment rire, ouais.
Etc. Enfin, c'est beaucoup plus facile de faire pleurer Margot que l'inverse, vraiment. Et donc, c'est pour ça que souvent, effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste, on a le processus inverse. Voilà. Après, il y a des gens extraordinaires. Je sais pas, bon, je vais prendre la plus grande actrice pour moi de vivante aujourd'hui, qui est Isabelle Huppert, qui elle peut naviguer dans tous les registres les plus extrêmes, mais elle est juste.
C'est ta préférée, vraiment.
C'est pour moi la plus grande actrice, en tout cas préférée, préférée de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle...
qui navigue dans les styles.
Je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent absolument phénoménal, et puis qui va marquer l'histoire du cinéma, du théâtre international, puisque c'est ça aussi sa spécificité, de manière totalement indélébile, parce que des parcours comme le sien, il y en a pas. Enfin, j'en vois pas aujourd'hui.
Elle t'est venue spontanément, en tout cas, en tête.
Ah oui, oui, ouais. Pour parce que effectivement, elle ne cesse de notamment au cinéma,
de
naviguer dans des comédies, dans des choses absolument atroces.
Là, t'as plus qu'à choisir, à trouver un spectacle par Isabelle Huppert pour un de tes prochains festivals.
Exactement, mais c'est pas totalement. Inaccessible et hors du périmètre des possibles. Donc, bon,
On attend. Alors ça, tu l'as dit, voilà, on entamait en fait un peu la partie avec des voix parlées, ouais, après le chant et la musique.
Et dans ce même registre, on a aussi, c'est une compagnie qui est fidèle du festival, parce qu'aussi ils sont à côté, et puis c'est vraiment des amis, hein, c'est la compagnie Émilie Valentin, une compagnie de marionnettes, donc... qui vient présenter un spectacle qui s'appelle Molière x3, donc qui est un spectacle qui est proposé pour le jeune public, autour de trois farces de Molière, dont sont extraits les moments les plus sanglants, on va dire, et cinglants. Et donc, on retrouve toute la magie de la création marionnettique d'Émilie Valentin, voilà, qui à la fois en tant que dramaturge, mais aussi créatrice vraiment de personnages de marionnettes. Et c'est... voilà, un vrai bonheur de les accueillir avec cette petite forme pour le jeune public. Pour le jeune public, en dehors de la compagnie Émilie Valentin, où le spectacle Molière x3 là, est plutôt destiné au public de primaire, on s'adresse aussi aux plus petits, donc ceux qui sont maternelle et crèche. Et c'est donc tout pareil par la compagnie Piquet Collégramme, qui est une compagnie qui vient de Montpellier, qui propose une sorte de voyage musical très sensoriel, très émotionnel, pour éveiller ses petites oreilles aux bienfaits de la musique et du spectacle vivant. Voilà.
Ah, alors si on veut des détails sur cette programmation riche, où doit-on se rendre ?
Eh bien, le mieux, c'est si on est équipé de manière moderne, d'aller sur Internet, bien entendu, et d'aller sur le site du festival www.éclat.fr. Donc ça, c'est un des
possibles. Ça, c'est bien fait, ça. Éclat, c'est bien. Oui, pas de tiret, de point, de choses.
Non, simple, éclat.fr. Oui, ça marche bien. On est d'ailleurs étonné que personne ne l'ait pris quand on a, réservé le nom de domaine, mais bon, c'était libre, donc éclat.fr. On peut acheter aussi des billets en ligne, et puis sinon, on peut s'enseigner auprès de l'Office de tourisme du pays de Diolfi-Bourdeaux, qui peut donner tous les renseignements. Et enfin, le programme papier est disponible dans plus d'endroits où on a pu en mettre. Donc,
dans des commerces.
Partout, des commerces. Les offices de tourisme, des lieux culturels, les médiathèques, enfin voilà, partout où des gens sont susceptibles d'être
intéressés. Et même si c'est ton autre casquette au bureau du festival, a dit.
Et même si c'est mon autre casquette, c'est pas incompatible. Voilà, je ne suis pas, comment dirais-je, en contradiction avec moi-même, en mettant des programmes du Festival Éclat au bureau du Festival Est-Ouest, d'autant que je mets des programmes du Festival Est-Ouest
au bureau du Festival Éclat.
Voilà, pendant le festival. Donc tout va bien.
Tout va bien. Alors voilà, on vous l'a dit, pour aller consulter le programme détaillé, vous renseigner sur les tarifs, les horaires précis, les jours de tout ce dont on vient de parler et qui effectivement fait une belle masse d'informations, www.éclat.fr. Voilà. J'espère que ça a donné envie à tout le monde. Ça commence, pour le rappeler, du mercredi 7 septembre et ça dure jusqu'au dimanche 11,
si je ne me trompe pas.
Voilà, inclus. C'est la 15e édition et c'est plein de choses. C'est riche et puis c'est aussi adapté au jeune public. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez venir en famille à certains moments.
C'est un spectacle, oui.
Merci beaucoup, Harold.
Merci.
Et ben, retrouvez toutes nos autres interviews sur le www.rdwa.fr et bonne fin de journée à tous et à toutes.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I say to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, often on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Oh, they're saying, I love you. I see babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever. And I say to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Hey, I say to myself, what a wonderful world.